J'ai connu pas mal d'écologistes, j'en ai pas connu un encore qui soit écologiste par dégoût du progrès et par amour du passé.
CO2, mon amour.
Ça, c'est l'image qu'on donne justement les anti-écologistes. C'est un reproche plus que simpliste, c'est un reproche perfide. Politicards de mauvaise foi comme ils le sont tous.
Avec Denis Chessou.
L'écologie, c'est le progrès tel qu'il devrait être, c'est-à-dire un progrès qui ne serait pas simplement la ruée sur toutes les innovations techniques pour immédiatement en faire à les commercialiser, un progrès qui ne viserait que le profit de quelques-uns en persuadant aux autres qu'ils ont absolument besoin de ces produits, mais un progrès qui viserait, on va prendre un mot très très ambitieux, à la gestion de la planète.
Sur France Inter.
Voilà.
Et bien voilà. Et le voilà, et bien c'était François Cavanna, donc il y a plus d'une vingtaine d'années avec donc ses considérations sur l'écologie. Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous accueillir dans ce magazine de nature et d'environnement, CO2 mon amour, une émission qui rapproche les hommes en nous rapprochant de la nature, avec aujourd'hui, alors avec Plantu qui est avec nous, mais à la technique, Élise Christophe et Maxime Ingrand, et assisté de Sophie Hoffmann, c'est Xavier Pestugia qui réalise l'émission. Alors, est-ce l'effet d'un rêve éveillé ou bien l'annonce du retour du printemps ? Ce matin, se dit le renard, le soleil me caresse l'échine. Mes pattes sont encore glacées par le givre des herbes couchées. Mais c'est bien un premier pinson qui, là-haut, dans l'arbre, pousse le chant du clairon. Oui ! Le voisin, d'ailleurs, qui est un malin, percera demain le bouleau du jardin pour en aspirer la sève, toute fraîche encore, et s'en purifier le corps. Alors, nature généreuse, réveille-toi, il est temps. Oh, mais elle le sait, pas d'inquiétude. Pour les hommes comme pour les bêtes, cet hiver fut rude, très rude. Même si c'est un hiver à faire marrer les Inuits ou les manchots de la Terre Adélie, bien sûr. Une forte envie d'amour, de nivéole, de pâquerette, de narcisse, de violette soulève les taupinières. La terre fume dans les timides chaleurs de mars, gorgée des neiges fondues d'hier. Rentrer les dernières bûches, faire enfin la paix avec les arbres, embrasser les bourgeons, dire salut aux bouvreuils, refaire le bout du petit pont de bois chahuté par la neige. Et le rouge-gorge, ah bah lui, il ne chante plus. Non, il va faire semblant de déserter vos propriétés, mais en fait, il n'est pas loin. Il n'est pas loin parce qu'il en fait le tour. Malin qui trouvera son nid, il est en fait en amour. Un lézard, et puis deux, et puis trois, la tenez sur le mur à mesure que chauffe la pierre. Les abeilles déjà cherchent le pollen des chatons de marceau. Vous savez, si, le saule marceau qui se mire au bord de l'eau. Ah, le joli printemps en devenir, des retrouvailles de feuilles tendres, une ribambelle de petites merveilles, oui, qui n'ont pas besoin de coach ou de développement personnel. C'est incroyable hein, pour s'épanouir. Et non, elles n'ont pas besoin de ça tout seul, la nature. Là, des fleurs de prunier et des petites graines à regarder germer et les jeunes pousses perçant la terre qui n'ont qu'une seule idée, aller téter le soleil. Et pendant que ça parle le merle, que ça chante mésange, que ça prime vert à tous les étages à Paris, eh bien, à Paris quoi donc? Eh bien, il y a eu la Fashion Week, autrement dit la haute couture qui bat son plein. Et cette semaine, donc le 6 mars, Chanel a choisi un décor dit naturel pour son défilé de filles taille 34. Il y a eu un progrès, avant c'était 32, hein, donc attention mesdemoiselles, parce que à 19 ans vous êtes bonnes pour la casse et l'embonpoint vous guette. Donc, résultat des courses, de vrais arbres, certains centenaires furent zigouillés à la base pour quelques heures de show. Imaginez un défilé dans une forêt réelle, bon après tout pourquoi pas. Mais là tout est faux. Le décor, les lumières de fin d'hiver, les sourires, mais pas la carcasse des grands arbres sacrifiés sur l'autel de la mode. Belle image éco-responsable, oui. Alors peut-être que ce sont, je vous en parlais la semaine dernière, des arbres corréziens de bord de route, hein, tronçonnés avec l'injonction suprême du président du conseil départemental, dont l'intérêt pour le paysage semble un petit peu court. Et Coco Chanel, en fait, elle avait une très jolie phrase quand on lui volait une idée. Elle disait, vous pouvez me piquer mes idées, de toute façon, j'en aurai d'autres. Et on aurait souhaité qu'une autre idée de mise en scène surgisse pour ce défilé. Chanel 2018 présente ces arbres qu'on abat ou la forêt désenchantée. Ben voilà, ça c'est peut-être une idée de dessin, cher Plantu, hein, on ne sait jamais avec ces différents sujets sur l'actualité. Bonjour à vous, Jean.
Bonjour, je trouve que c'est un beau sujet. Et alors, évidemment, les idées de dessin, elles viennent forcément. Il suffit d'écouter, d'être sentir. Voilà, ce qui est bien, c'est que quand on est énervé et révolté, comme vous l'êtes, et vous le racontez de manière poétique, et moi, des fois, je ne le raconte pas forcément de manière poétique.
Remarquez-moi non plus.
Et à la fin, bah, ça devient un dessin, des fois un peu rageur. Voilà, c'est ça.
Ouais.
Ça sert à ça, un dessinateur.
Bah, vous avez aussi pas mal de poésie aussi dans votre.
Il paraît, un sujet comme ça, là. D'ailleurs, vous parliez des mésanges et des merles.
Oui.
Et quand j'ai vu Yann Arthus Bertrand il n'y a pas longtemps, il m'a dit quelque chose que je ne savais pas. C'est qu'il y avait de moins en moins d'oiseaux dans Paris, et je m'en voulais d'ailleurs qu'il me dise ça, parce que en fait j'entends bien des oiseaux, mais d'après lui, et je crois qu'il a raison, et il le raconte d'ailleurs dans la préface, il y en a de moins en moins.
Vous avez beaucoup moins de moineaux sur Paris aujourd'hui, vous avez un oiseau sur huit qui a dégagé de la planète d'une façon générale. Ça va très très vite, parce qu'évidemment on bouleverse nos milieux, principalement les milieux agricoles, et à partir de là, quand vous avez des pesticides, que vous n'avez plus de haies parce que tout est ratiboisé, ben vous n'avez plus de biodiversité, c'est aussi simple que ça.
Ouais, mais vous voyez, il faut que des gens nous le disent et nous le redisent pour qu'on finalement on puisse en prendre conscience. Et d'ailleurs, il rajoutait que d'ailleurs, il me disait, mais vous avez bien vu que sur vos pare-brises, quand vous faites de la route, il n'y a plus de moucherons et de moustiques. Je n'ai pas fait attention. Et c'est vrai que je me souviens que c'est des choses qu'on nettoyait à chaque fois qu'on s'arrêtait pour prendre de l'essence.
Ouais.
Finalement, il y a moins d'urgence là maintenant. Et en fait, il y a moins d'urgence parce qu'il y a une urgence.
Ah oui, non, mais là aussi, je crois que ça doit être de l'ordre de 70 à 80% des insectes qui sont passés de vie à trépassé. Formidable. Et en même temps, il y a des solutions. Alors, pas pour tout, hein. Non, loin de là. Mais il y a quand même des choses qui sont tout à fait intéressantes et positives. Alors, là, on a peut-être ce qu'on va dire une bonne nouvelle. On aime bien commencer par une bonne nouvelle. Alors pour d'autres, ce sera une mauvaise nouvelle. Bonjour Frédéric Danhé.
Bonjour Denis, bonjour Jean.
Bonjour.
Alors cher Frédéric, pourquoi vous intervenez ? Parce qu'on va parler de cette annulation d'un arrêté qui a eu lieu donc cette semaine concernant Europa City. Nous sommes au nord de Paris, on est sur le triangle de Gonesse, alors ça représente pas loin de 280 hectares au total. Et alors que s'est-il passé ?
Alors c'est, pour bien fixer les idées, on est entre Bourget, le Bourget, Roissy et Paris, c'est pile poil là où le Concorde s'est cassé la figure, hein, pour oui. fixer les idées. Donc 280 hectares, bien l'arrêté du 21 septembre 2016, par lequel le préfet du Val-d'Oise avait approuvé cette zone d'aménagement concerté, comme il faut dire, eh bien, il a été annulé par le tribunal administratif. De Cergy-Pontoise. Annulé, ça ne veut pas dire abrogé. Donc le projet peut toujours continuer si tant est que le préfet réponde à la demande du tribunal qui a constaté un manque d'informations notoires liées à des études d'impact qui n'étaient pas suffisantes en matière d'environnement et aussi et surtout en matière d'alimentation énergétique du site. Voilà, il y a un flou de jugé, on ne sait pas d'où viendra l'énergie, et en matière de pollution de l'air et d'émissions de CO2, eu égard au fait que les 31 millions de visiteurs attendus pour ce projet démentiel se déplaceront au moins pendant les deux premières années du projet en voiture, vu que la station de métro de la ligne 17, hein, dans le cadre du Grand Paris, va arriver entre 2 et 3 ans après Europa City, si Europa City voit le jour.
Alors, on met en avant aussi donc les emplois, ça c'est le grand argument, on dit entre 8000 et 10000 emplois.
Oui, entre 8000 et 10000 emplois créés sur le site, hein, sur les 80 hectares de surface commerciale et les 128 hectares de surface de bureau, sauf que ça ne tient pas compte des emplois qui seront supprimés dans les, tenez-vous bien, dans les 6 centres commerciaux qui sont déjà dans la zone. Donc on estime qu'un tiers de ces emplois iront alimenter le bassin d'emploi d'Europa City. Et puis pour le reste, on aura des suppressions d'emplois nettes. Hein. On a 6 centres commerciaux déjà dans la zone. On peut supposer, j'ai donné 3-4 coups de fil, on estime qu'entre 1 et 2, de toute façon, ne feront faillite à cause de la concurrence d'Europa City. Donc, on va dire qu'il y aurait entre 3000 et 4000 de création d'emplois nets, ce qui est pas si mal dans un bassin où il y a 30% de chômeurs, mais c'est pas les 10 000 annoncés.
Alors, on parle quand même sur Europa City, d'une perte de terres agricoles, mais alors, pas forcément de biodiversité, expliquez-nous.
Et ce que disait Jean est très juste, si on a perdu des oiseaux en France et en Europe, c'est en grande partie lié au remembrement agricole qui a fait qu'on n'a plus de haies, plus d'arbres, plus de bosquets. Or là, pour le coup, il n'y a pas d'arbres, pas de haies, pas de bosquets, rien du tout. La biodiversité, il faut quand même la chercher sur le triangle de Gonesse. Et du coup, Europa City a profité de l'aubaine pour dire, mais regardez, avec nos toits végétalisés et nos parkings arborés, on va ramener de la biodiversité. qui n'est pas faux, raison pour laquelle les associations qui étaient contre ont eu l'intelligence de soumettre, de proposer, pardon, un projet alternatif d'agriculture bio ou de conservation des sols, qui fait une grande part appel à l'agroforesterie, c'est-à-dire aux arbres, aux bosquets, de façon à recréer, à attirer encore plus de biodiversité qu'Europa City ne pourrait le faire. Ça, c'est malin, ça coupe l'herbe sous le pied des promoteurs d'Europa City.
Frédéric Danhoué, qu'est-ce que ça raconte aujourd'hui de l'état des méga grandes surfaces? 3 milliards donc pour Europa City, qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs?
Ça veut dire que c'est la Lali, mon cher Denis, mon cher Jean. On a déjà 6 centres commerciaux. Pourquoi en planter un de nouveau? C'est parce que la grande distribution ne gagne plus d'argent. Sinon, ils ne se rueraient pas sur le bio pour essayer de rattraper les clients qui les fuient parce qu'ils n'ont plus confiance en la grande distribution. Donc, on crée des centres commerciaux géants qui ne rapportent pas, vous ne le savez peut-être pas, par les hypermarchés, qui rapportent surtout par les loyers que les propriétaires font payer à la petite onglerie, au magasin de téléphonie mobile, au PMU. C'est ça qui rapporte de l'argent. C'est une bulle financière. L'offre de centres commerciaux est 3 fois supérieure à l'augmentation de la demande, ce qui veut dire qu'un jour ou l'autre, cette offre financière, cette bulle financière va exploser et on se retrouvera avec quoi au nord de Paris? Avec quelques belles friches commerciales qui seront à la charge de qui? Du contribuable, avec des emplois qui auront été supprimés.
Merci beaucoup, cher Frédéric Danhoué. Et puis, pour ce merveilleux décryptage donc d'Europa City, que nous attendons avec une grande joie, vous l'avez très très bien compris. Allez, musique, la première.
No, I love you so bad. I don't believe in love. You know I love you so bad. So bad. You know I love you so bad. Like the kid in the back of the classroom who can't do the math 'cause you can't see the blackboard. So bad. You know I love you so bad. I'm
voilà les petites. Elles sont curieuses comme les chattes, il faut qu'elles viennent voir qui est là.
CO2, mon ami.
Alors, Marilyn, s'il te plaît. Et puis non, vous sortez, il n'y a plus rien à voir. Et tu remarqueras qu'après leur passage, il n'y a pas une crotte. Je me suis bagarré pour y arriver.
Sur France Inter.
Les chèvres, c'est très enrichissant, mais c'est pas du tout le même contact qu'avec les chevaux, par exemple.
Ouais, bien sûr.
Bon, bah.
Sur 30 chèvres, sans mentir, au bout du compte, j'en connais réellement que 3. Et encore.
Avec Denis Chesson.
Allez les chèvres, approchez-vous, là, venez, c'est bien France Inter, c'est CO2 mon amour, venez près du poste. Et vous avez qui? Ah bah c'est formidable, Plantu, là vous avez presque une chèvre à côté de vous. Cher Plantu, avec cet ouvrage qui vient de sortir, d'où votre présence dans cette émission, ça chauffe pour la planète, 60 dessins de presse, aux éditions donc Gallimard, et aussi pour Cartooning for Peace. Alors là, racontez-nous, parce que vous abordez la question de l'écologie, et c'est un réseau de combien de dessinateurs Cartooning for Peace?
On est plus de 165 de toute religion. On a bien fait attention de mélanger des juifs, des chrétiens, des musulmans, des agnostiques, des athées, pour qu'on puisse, depuis 11 ans, ça fait qu'on a créé ça avec Kofi Annan, qui était secrétaire général de l'ONU, des dessinateurs de toute religion, de toute culture, de tout poil, de toute barbe, et qui n'ont pas forcément les mêmes opinions. Et c'est pour ça que je suis très content d'avoir demandé à Antoine Gallimard de faire une collection Cartooning for Peace chez Gallimard, pour qu'on puisse rassembler des dessinateurs sur différents thèmes, en même temps qu'il y a ce bouquin qui sort, il y en a un autre qui sort sur Poutine, mais là, sur le réchauffement climatique et la planète, eh ben, on a été demandé à Yann Arthus Bertrand de bien vouloir faire la préface. Et finalement, moi qui ai raté mes études, et je le dis humblement, en fait, j'ai eu énormément de chance, tous les dessinateurs ont beaucoup de chance, parce que souvent, ils sont, c'était pas des as hein, à l'école. Et à la fois, grâce aux journalistes, aux journalistes qui s'occupent de la biodiversité, ceux qui s'occupent de la terre. Il y a eu plein de journalistes au journal Le Monde qui m'ont fait des cours particuliers de tout ce qui concerne l'environnement. Et puis grâce à ça, et grâce au regard de Yann Arthus Bertrand, on est rentré de plein pied, un peu comme si on était... On n'est pas des intellectuels. Mais le regard de ce livre de 60 dessins, c'est un petit bloc-notes, je dirais intellectuel, mais qui se prend pas au sérieux. Et c'est pour ça qu'il y a des dessins. Et c'est pour ça qu'ils sont rythmés par le regard et les commentaires de Yann Arthus Bertrand, que je remercie.
Et lorsqu'il est arrivé dans votre bureau, quand vous l'avez rencontré, Yann Arthus Bertrand, qu'est-ce qui s'est passé?
Eh ben, il a pleuré. Et j'étais étonné. Et parce que je pense qu'il connaît énormément de choses sur moi. Je suis là, moi j'écoute, je regarde et je suis une sorte d'interprète, de traducteur. Je sais écouter. Je suis une éponge, oui, exactement. Et j'écoute et je me dis mais ouais, il a raison. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et quand il me dit sur le nucléaire qu'il est un peu ambivalent, je l'entends parce que moi je m'attendais à ce qu'il soit complètement anti et c'est pas le cas. Mais moi je veux écouter. J'ai besoin de dire ah pourquoi. Et quand je vous entendais tout à l'heure parler de Europa City, je trouve ça très intéressant parce que à la fois on a une part, même si vous le dites très gentiment avec un petit côté sifflotant comme ça avec des petits moineaux, mais vous en fait vous lâchez quand même quelque chose qui sont des vraies salves salvatrices, je dirais. Et à la fois je me dis mais c'est pas vrai, il y a pas d'un côté les gentils et de côté les méchants. Et en fait dans tout ce débat sur Europa City ou la biodiversité ou ce livre qu'on raconte sur le réchauffement climatique. En fait, c'est pour ça qu'on rassemble des tas de dessinateurs qui sont pas contradictoires, mais qui ont des avis séparés, différents. Et c'est pour ça qu'au bout du compte, le lecteur, il prend le bouquin, il se fait un avis. Il est comme moi, il y a 10 ans, moi, je connaissais pas grand-chose. Je vous dis, je ricanais, je faisais partie un peu des ricaneurs. Et quand j'entends Cavana tout à l'heure, merci d'avoir mis Cavana au début de l'émission, pour moi, il faisait partie des doux rêveurs. Et finalement, quand on s'aperçoit de ce qu'ils ont fait, je pense à GB, L'an 1, le film qu'il a fait L'an 1 dans les années 60, et ben c'était prémonitoire et c'est eux qui avaient raison. Alors il le disait de manière bordélique. Ah ouais, c'est vrai. Oui, et moi, j'ai retenu à l'époque que le bordel. Et en fait, il disait des choses sérieuses malgré l'aspect bordélique.
Il y extérieur. Avait la gueule ouverte aussi avec Fournier. Ouais. Il y a bien sûr Cabu. On va entendre sa voix tout à l'heure. Il y a...
Et Reiser qui essayait de mettre des cellules photo, je sais plus comment, voltaïques sur son toit et que les gens d'EDF venaient défaire. Ah ouais. Et parce que c'était hors la loi, il n'avait pas le droit de faire son électricité à lui tout seul. Alors moi, en plus, moi j'adorais ces dessins Reiser, et c'était des raisins de la colère d'ailleurs. Et je trouve que à la fin, il m'apprenait, il me faisait un cours d'écologie. Volinsky me venait de donner des cours de sciences sexuelles, d'éducation sexuelle, et Reiser me donnait des cours de dessin, parce que c'était un grand, immense dessinateur. On en a mis quelques-uns au début, parce que Yann Arthus-Bertrand rend hommage aux années 68 et aux années de la gueule ouverte, et à Maja, le dessinateur qui a été le premier à faire l'affiche de René Dumont en 74, quand il s'est présenté à la présidentielle, pour représenter l'écologie.
Mais je vous lançais tout à l'heure, effectivement, sur il y a des étudiants qui est rentré dans votre bureau, donc aussi en pleurant, parce que il s'est rendu compte que là, il craquait un peu, parce qu'en fait, depuis une cinquantaine d'années, il y a heureusement eu beaucoup d'inventions, on peut mettre tout un catalogue extrêmement positif. Mais quand même, c'est-à-dire que tout le constat que nous avons, donc, était parti aussi depuis, donc, le rapport sur la croissance du Club de Rome. Donc là, on est en 72, qui était d'ailleurs les limites de la croissance pour le bon titre de mémoire. Et puis après, donc, on a eu Rio 92. Là, on a eu 15 000 quand même scientifiques, là aussi de tout poil. Qui ont signé donc une pétition sur la biodiversité, sur le réchauffement climatique. Et qui a à la fois des progrès incroyables qui s'opèrent, et on le voit à la fois au quotidien, on le voit dans les collectivités, on le voit dans les entreprises, mais à côté de ça, l'ampleur du phénomène fait que ça freine quand même beaucoup de la part de décideurs qui n'ont pas du tout intérêt à ce qu'on accélère les choses.
D'autant plus qu'il y a Trump, qui dit conneries sur conneries.
Oui.
Alors évidemment, on a du boulot.
Donc il y a tout ça. Alors nous avons justement quelqu'un qui fait des choses formidables, qui est venu avec son petit vélo. Bonjour Jean-François Ricot.
Bonjour.
Alors Jean-François Ricot, vous êtes à la tête de l'association Biocycle. Alors ça, c'est très intéressant parce que vous êtes le premier relais du don alimentaire en triporteur. Donc il y a une entreprise entrepreneuriale, ça date d'il y a 2 ans. Donc racontez-nous qu'est-ce que vous faites. Là, on est dans les solutions très positives.
Ben, disons en fait, on a eu l'idée simple de pouvoir relier deux choses qui semblaient quelque part opposées, c'est-à-dire le trop d'un côté et le pas assez de l'autre, c'est-à-dire des commerces, ce soit la grande distribution, les marchés ou la restauration collective, de générer en fait de la nourriture qui ne va pas être consommée et qui est encore bonne et qui peut être redistribuée à temps. Et de l'autre côté, des personnes qui ne s'alimentent pas correctement, qui souffrent de malnutrition à l'échelle du quartier toujours. Et donc en utilisant un vélo, un petit peu d'huile de genou en quelque sorte, on fait le lien entre ce trop, ce pas assez. Aujourd'hui, on aide à peu près 300 personnes qui dépendent de l'aide alimentaire chaque semaine sur la base d'une demi-tonne collectée.
Donc, il y a malheureusement des gens qui sont dans un état très dur, on va appeler ça la pauvreté. 8 900 000 personnes aujourd'hui en France sous le seuil de pauvreté. On rappelle qu'il y a un tiers des aliments produits, alors là c'est sur la planète, qui sont jetés chaque année. Et on va dire, alors si je parle de l'Île-de-France, à peu près 14 kilos de nourriture qui sont gaspillés. Donc d'un côté, les donateurs, ça veut dire, les donateurs c'est les entreprises, c'est les commerçants, c'est les grandes surfaces. Et puis de l'autre côté, donc les personnes à qui vous distribuez. Alors comment ça fonctionne, ça? Parce que c'est entre les deux que ça se passe.
Avec le sourire, toujours, ouais. En fait, et un petit peu de pédalage. Mais typiquement, on va à la rencontre des commerçants à l'échelle des quartiers. Et ça, c'est valable pour les cœurs de ville, en effet. On valide avec eux, en fait, une convention de partenariat qui est sous le coup de la loi anti-gaspi, qui est la première dans le monde, d'ailleurs. La France peut se targuer d'être la première depuis février 2016. On encadre le don, la nature du don, les conditions dans lesquelles le don est émis, et ensuite on transporte sur une échelle d'1,5 km, 3 km maximum à l'échelle du quartier, les dons collectés avec la conservation qui va bien, des bacs isothermes, des plaques tectiques pour de la conservation entre 0 et 4 degrés, et on redistribue à des associations qui, elles, sont habilitées en fait à redonner au public qu'elles accompagnent au quotidien sur le lien social, sachant que dans ce cadre-là, souvent l'alimentation est évidemment un besoin ô combien vital, mais c'est aussi un moyen en fait de connecter et d'aider les personnes à pouvoir sortir de leurs difficultés.
Alors Jean-François Ricot, j'ai vu votre remorque, parce que j'ai eu la chance de vous remettre un prix, donc de la ville de Paris d'ailleurs, une remorque donc isotherme qui est posée donc sur deux roues arrière, et chaque triporteur donc peut transporter jusqu'à, je crois, 250 kilos hein, de fruits et de légumes. Ils viennent d'où les vélos?
Alors les vélos, en fait,
c'est les anciens vélibles hein, qui sont plus
j'aurais, quoi faire, donc, j'aurais bien aimé, ça on a pensé pour les vélos mixeurs, mais on en parlera peut-être un petit peu plus tard. Les vélos, en fait, c'est une fabrication anglaise, donc ça nous vient en fait de l'Europe. Ils sont assez robustes, on peut aller au-delà de 250 kilos en réalité, donc c'est assez bien proportionné. Oui. C'est un mélange entre un vélo et quasiment une moto, en fait, en termes de freinage, de robustesse du cadre. Et c'est vrai que c'est un outil absolument formidable qui revient dans les cœurs de ville aujourd'hui sur la logistique urbaine. Et typiquement, ça permet aussi de faire de l'insertion, ce qui est une de nos vocations.
Voilà, donc c'est la deuxième vocation. C'est-à-dire que vous créez quand même aussi des emplois, vous remettez des gens dans le chemin. Enfin,
tout à fait. En fait, l'idée pour nous, c'est en même temps que de rendre la part belle à ce qui peut sembler moche ou ce qui serait invendu et jeté à la poubelle malheureusement, en même temps que mener cette action pour l'alimentation solidaire, on crée des emplois. Et des emplois qui sont destinés, c'est vrai, à des publics, que ce soit jeunes ou moins jeunes, qui ont des qualifications ou un petit peu moins, et qui ont besoin de remonter en selle dans leur perspective professionnelle. Et on travaille notamment avec 13 Avenir, qui est une entreprise à but d'emploi qui est installée sur le 13e et qui fait partie des 10 territoires sélectionnés, territoires zéro chômeur.
Vous avez parlé de vélo mixeur, qu'est-ce donc ?
Alors les vélos mixeurs, en fait, on est parti en effet de notre activité première depuis juin 2014 avec le vélo triporteur en relais du don. Même si les vélos triporteurs sont visibles en cœur de ville, parce qu'il y a une connectique très sympathique, une bonne bonhomie avec le grand public, on s'est dit comment on pouvait impacter un petit peu plus en fait tout le monde sur un sujet ô combien anxiogène et un peu stressant, mais en mode inclusif et ludique. Et c'est comme ça que l'idée en fait des vélos de récup qui sont issus des fourrières qu'on remet en état mécaniquement, on les repeint, donc on leur fait un petit peu une nouvelle carrosserie et on installe dessus en seconde main des mixeurs. Ça veut dire que lorsque vous pédalez, au lieu de faire de la lumière via un système dynamo, vous faites des jus, des smoothies, des soupes selon la saison.
Avec ce que vous avez récupéré.
Avec des fruits et des légumes moches.
D'accord, oui, mais c'est ça, mais ils sont moches, mais ils sont très bons.
La beauté est intérieure, je pense
mais
que c'est tout le monde
exactement,
s'y accorde.
Mais bien sûr, mais tout ça, chez le Navet, la beauté est intérieure.
Je trouve ça drôlement, vraiment mal, bien, hein, vraiment bravo. Et je devrais le savoir, la loi anti-gaspi, elle a été votée par qui ?
Elle a été lancée par Guillaume Garot, donc sous le précédent quinquennat, sur la base en fait d'une mobilisation citoyenne, notamment via une pétition en fait change.org, et qui a eu énormément de plébiscites. Et ça montre à quel point en fait cette thématique est une porte ouverte qui a pas besoin de défoncer et sur laquelle on a une cohésion en fait nationale en termes de sujets. Et ce n'est que le début.
Juste rapidement, vous fonctionnez comment d'un point de vue financier ? Donc parce que là, c'est un jeu fiscal. Lorsque les entreprises, les commerces, donc vous donnent ces différents produits, qu'est-ce qu'ils gagnent eux et comment vous gagnez quelque chose vous quand même pour faire vivre votre association ?
Oui, tout à fait. Bah, c'est un très bon point, Denis. Il y a une incitation à déduction fiscale. Vous savez, quand vous faites un don, nous en tant que particulier à titre personnel,
66%.
C'est ça. Les entreprises en fait également. Sur la base de dons en nature, fruits, légumes, produits frais, produits secs, peuvent déduire sur l'impôt société, en effet, 60% de la valeur en stock de ces produits. Et notre idée, ça a été de pouvoir, c'est vrai, prélever une légitime commission sur cet argent public qui revient à l'entreprise pour l'inciter, en fait, à donner, à être premier élément de la chaîne de solidarité et ce qui vient soutenir, en fait, notre activité logistique. Toutefois, on a un vrai enjeu, et je pense que tout le monde aussi s'y accorde là-dessus. On est un petit peu une association de notre époque, de notre temps. On est absolument conscient que l'argent public est raréfaction. Donc plutôt que de se demander ce que la France peut nous apporter, comment nous on peut éventuellement rendre l'appareil, et ça j'ai l'impression que c'est le cas de nombreuses générations maintenant qui arrivent, d'y ajouter à une activité économique énormément d'impact sociétal et environnemental. Et c'est comme ça qu'on a eu l'idée de faire de la prestation de service auprès des entreprises. Donc c'est le cas sur l'économie fiscale pour soutenir la logistique. Les vélos mixeur en partie, aujourd'hui c'est plus de 11 000 personnes qui sont sensibilisées en Île-de-France.
Et puis vous nous parlerez tout à l'heure de la teinture naturelle, ça c'est aussi tout à fait intéressant, donc avec Jean-François Réco et Biocycle, et quelqu'un qui n'est pas périmé du tout, mais non, est en pleine forme, c'est Dominica.
Comme ça cognait, Phébus à bloc, on s'abritait dans la forêt. Mille sentiers nous parcouraient, mille odyssées à notre porte, les cohortes d'ennui filaient, on le savait, elle reviendrait. Nous avions toute l'attitude et toute la vie. Toute l'attitude et toute la vie, aucun engagement d'aucune sorte. Et pour seule devise, peu importe. Oh, ça nous voyait comme anguille, dans les ruisseaux qui serpentaient, mains des garçons, cheveux des filles. Et on se cherchait dans les bois,
certains se trouveraient d'autres pas, mais sans moquer, qui oserait, même aujourd'hui, qui oserait. Nous avions toute l'attitude et toute la vie. Toute l'attitude et toute la vie. Aucun engagement d'aucune sorte. Nous avions toute l'attitude et toute la vie. Toute l'attitude et toute la vie. Aucun engagement d'aucune sorte. Et pour seule devise, peu importe. Mais depuis,
c'est l'histoire d'un gars donc qui a planté des éoliennes pendant très très longtemps, donc Dominica, et donc son nouvel album avec cette choisie par Muriel Perret, cette chanson qui s'appelle Toute l'attitude.
Il faut que je vous dise que je suis un beauf aussi. Je crois que il y a une part de beauf chez tout le monde. Quand on se laisse porter par les idées reçues, on est un beauf.
CO2, mon amour.
Les chasseurs sont des beaufs. Oh, ah vous n'aimez pas les chasseurs non plus.
En première ligne.
Ah bon?
Ah oui.
Évidemment.
Juste après les militaires. Parce que ça, c'est quand même extraordinaire que les animaux, eux, ils ne défilent pas pour regarder passer un défilé de lapins, par exemple, avec des couteaux.
Avec Denis Chessou sur France Inter.
Et nous les hommes, on va défiler le 14 juillet avec nos armes, avec ce qui va servir à nous détruire.
Jolie petite pastille, donc avec la voix de Cabu. De temps en temps, cher Plantu, ça a dû vous arriver quand vous dites « Ah, monsieur Cabu, vous ne pouvez pas me faire un petit dessin ?»
Exactement, et comme lui, c'est marrant, lui, il arrive à faire des farces, parce que on lui disait « Ah, j'aime beaucoup vos dessins, Plantu, vous ne pouvez pas me faire un dessin, monsieur Plantu ?» Alors Cabu prenait un crayon, ouais. Il faisait un dessin, et il le signait Plantu,
ah oui.
Et les gens étaient persuadés qu'il se baladait avec... Je trouve que c'était mignon, et puis c'est drôle de l'entendre sa voix, parce qu'il a toujours rigolé de tous les sujets, même les sujets graves, et jusqu'au dernier moment, bah, il a toujours été anti-militariste, anti-chasseur, et là, je rebondis sur ce qu'on disait tout à l'heure sur la biodiversité, Europa City, tout ça, et en fait, il avait décidé qu'il y avait des gentils d'un côté et les méchants de l'autre. Et moi, qui suis pas du tout chasseur, et quand on me demande, je vais des fois dans la montagne, dans la campagne, on me propose d'aller chasser, moi c'est pas mon truc.
Non.
Mais à la fois, ça me viendrait pas à l'esprit, j'ai peut-être tort, hein, d'insulter les chasseurs. Mmh. Ça je peux pas. C'est pas mon. Je pense qu'il y a des gens qu'il faut écouter de tous les bords. Et quand vous dites, vous, quand vous parlez de votre triporteur et que vous allez voir dans les magasins ou les supermarchés, j'imagine un Monoprix qui a un surplus de légumes, et ben justement, ça permet d'éviter de rester dans le côté, ah, il dirige un supermarché, donc c'est un affreux, un méchant, un affreux capitaliste. Et puis finalement, on s'aperçoit que tous ces gens-là, ils ont besoin aussi de donner, mais ils n'avaient jamais eu l'occasion d'avoir l'opportunité de dire « Mais nous aussi, on veut donner, mais on ne sait pas comment. » Et vous trouvez cette bonne manière de donner des légumes un peu à tout le monde.
Mais notre boulot, c'est ça, c'est-à-dire d'ouvrir des voies, des chemins, parce que la non-cohabitation, ça ne marche pas. Vous avez des gens, vous avez de l'extrême vert comme de l'extrême chasse aussi, bien sûr. Vous avez des chasseurs, moi, j'avais déjà fait des sujets aussi dessus. Vous avez des gars qui sont de bons protecteurs. Alors, je ne fais pas la majorité, hein, toujours. Mais ça existe. Absolument. Et le côté on-off aujourd'hui est toujours un petit peu insupportable. En tout cas, il y a toute une frange de nuances qui est là. Ce qui est intéressant chez vous, Plantu, c'est quand même ce chemin que vous avez effectué, parce que au départ, faut bien dire que ces sujets environnementaux, n'étaient pas vraiment centraux. Et là, vous le constatez, c'est-à-dire que de plus en plus, même dans vos thèmes de dessin, il y en a davantage.
Oui, il y a un côté, je dirais, beaucoup plus militant. Le fait que j'aille voir Gallimard, dire je veux faire un livre avec.
Donc ça chauffe pour la planète, 60 dessins de presse. Hein.
Ouais. Voilà. Avec mon équipe de Cartooning for Peace, il y a deux personnes, Laure et Isis, toutes les deux, elles ont travaillé avec l'équipe de Gallimard. C'est un acte militant, et cet acte militant est un acte pédago. Parce qu'on travaille beaucoup. Hier, j'étais dans une école à Asnières. On travaille beaucoup avec les écoles. On veut absolument on reprenne le dessin, les images, pour dire un dessin peut essayer de raconter de manière simple, et j'ai pas dit simpliste, mais simple, des choses qu'on a un petit peu du mal à comprendre. Moi qui ai du mal à piger des fois quand je lis un article, eh ben les idées de dessin me viennent, le dessin me permet d'être le traducteur, l'interprète de ce que je crois comprendre.
La limite est toujours 11 heures pour Le Monde, pour le journal.
Oh là là, 11 heures.
Pour rendre le dessin.
Vous me faites des sueurs froides parce que 11 heures ce serait une catastrophe.
Ah oui.
C'est l'idéal, ce serait 10h25. J'essaie de l'envoyer vers, on boucle à 10h30, hein. Le BAT, c'est 10h30.
Et ça, c'est le bon à tirer.
Et j'envoie mon dessin entre 10h05 et 10h20. C'est un peu casse-gueule.
Oui.
Parce qu'il y a des matins, j'ai un peu du mal à trouver. Mais je veux proposer à mes rédacteurs en chef plusieurs images, plusieurs dessins. Je veux qu'ils choisissent. Et après, je fais mon dessin en propre.
Voilà, ça a commencé en 72 pour vous, donc au Monde. Alors, il y a des questions que vous vous posez. Et une concernant les sacs plastiques. Racontez-nous.
Alors, justement, les sacs plastiques.
Oui.
Moi, je me pose des questions. Là, tout à l'heure, vous en avez parlé. On a dans nos poubelles beaucoup d'aliments qu'on jette, et je suis le premier à faire le amende honorable, parce que des fois, j'ai encore plein de progrès à faire. Et à la fois, les sacs plastiques, alors de plus en plus, moi je vais faire des achats Carrefour Express, moi j'arrête pas d'aller chez eux, et ils me donnent le choix, et donc je prends du papier, où j'ai un petit chinois à côté de chez moi, je suis dans le 10e, ils me proposent souvent des sacs plastiques, et je leur dis non, je vais prendre le papier. Bon, déjà je fais mais qu'est-ce que j'achète? J'achète des trucs qui sont emballés eux-mêmes dans le sac plastique. Et je reviens sur les larmes de Yann-Arthur Bertrand, qui nous a raconté qu'il peut même plus faire de photos sous-marines de certains lagons, je sais pas lesquels, il m'a raconté, parce que tout a été bouffé par le plastique. Il peut plus faire les photos qu'il pouvait faire il y a encore 20 ans.
Oui. Et donc, il y a une question que vous posez aussi, parce qu'il y a un dessin sur le Rwanda qui est très intéressant.
Oui, parce que le Rwanda, on a beaucoup de choses à apprendre de l'Afrique, de la culture africaine, beaucoup. Et le Rwanda a fait une loi, il y a quelques années, pour interdire les sacs plastiques. Et donc, il y a un dessin d'un dessinateur qui s'appelle Bizimana, qui est rwandais, et qui a montré qu'un dessin... Et le gars, il est d'ailleurs tout content, il descend de son avion, il a son petit sac plastique sous le dos. C'est vrai que quand on sort d'un avion, on a souvent une valise, mais peut-être qu'au Rwanda, ils ont peut-être plutôt des sacs plastiques, mais justement plus. Ils ont peut-être des sacs, mais qui sont pas en plastique. Et donc, du coup, le gars, il est refoulé. Et je trouve que c'est une manière assez simpliste, et c'est très bien dessiné, avec son style à lui, et on retrouve toute la culture africaine.
Et alors, vous souhaitiez donc faire un peu le point sur ces sacs plastiques. Bonjour, Fleur Berlingen.
Bonjour.
Alors, vous êtes la directrice de Zero Waste, hein, vous êtes venue dans cette émission il n'y a pas si longtemps, et faites directrice de zéro déchet, hein, Zero Waste, ça c'est vraiment votre credo. Où en est-on sur ces fameux dits sacs plastiques? Qu'est-ce qui est autorisé, qu'est-ce qui ne l'est pas? Où en est-on en France?
Eh ben, en France, théoriquement, ils sont interdits également, en tout cas pour les sacs de caisse et les sacs fruits et légumes. Malheureusement, on en voit encore un petit peu, hein, sur le terrain. Les auditeurs pourront témoigner qu'on en trouve encore. Mais théoriquement, depuis l'année dernière, on ne devrait plus trouver de sacs plastiques à usage unique, sauf s'ils sont compostables, biosourcés et compostables, ou alors s'ils sont réutilisables.
Alors, quand on appelle biosourcés, ça veut dire qu'ils sont fabriqués à base de quoi? D'amidon de maïs et de pommes de terre, principalement?
Voilà, ça peut être ces végétaux-là. C'est jamais à 100%, enfin pas pour l'instant. Donc on ne se passe pas tout à fait du pétrole pour l'instant.
C'est-à-dire qu'on peut mélanger l'amidon de maïs et le pétrole pour fabriquer par exemple des... C'est ça?
Oui, la plupart de ces sacs pour l'instant sont biosourcés à 50-60%, mais pas forcément à 100%.
On dit biosourcés?
Biosourcés, ça veut dire, ça fait référence à leur composition. Après, il y a une deuxième caractéristique qui est très importante, c'est leur compostabilité. Et là, ce que dit la loi française actuellement, c'est qu'il faut que le sac plastique soit compostable en compostage domestique, c'est-à-dire dans un compost de jardin.
Très bien. Et alors, c'est drôle parce qu'on utilise maintenant des mots. Maintenant, j'imagine un gars qui est en train de draguer une nana. Il dit, viens chez moi, j'ai des sacs biosourcés chez moi. Je ne sais pas si c'est un bon plan drague, mais en tout cas, on peut essayer.
Si vous avez les retours, vous nous en faites part.
Je voulais vous poser une question. Quand je prends mes légumes, justement, il y a maintenant des sacs papier. D'ailleurs, c'est une bonne idée. Je trouve qu'il y a une partie transparente où on peut voir le légume au moment où on les pèse. Et la partie transparente, c'est du biosourcé, ça?
Ben oui, probablement. C'est du bioplastique. Mais en fait, finalement, le problème, que ce soit du papier, du bioplastique ou quoi, enfin, quel que soit le matériau, le problème, c'est l'usage unique. Parce que même si le matériau est moins problématique, ce sera quand même une consommation de ressources qu'on aurait pu tout simplement éviter en utilisant un sac réutilisable. Quand l'alternative, elle est assez simple, finalement, on peut économiser des ressources qui sont précieuses, voilà, en changeant un petit peu de comportement.
D'accord. Donc, vous, ce que vous pointez surtout, c'est l'usage unique qu'il faut éviter. Hein. C'est ça qu'on doit retenir.
Exactement, exactement. Et puis, finalement, les sacs plastiques, ce n'est que le début, j'espère, en tout cas. Demain, on va peut-être s'attaquer à d'autres petits objets à usage unique qu'on a beaucoup dans notre quotidien. Je pense, par exemple, aux pailles. Je ne sais pas si vous...
Les pailles, c'est lorsque je bois ma menthe à l'eau avec une paille, c'est ça.
Exactement, ouais. Voilà. Et c'est quand même 3 milliards de pailles par an en France, rien que dans l'industrie du fast-food qui sont utilisées. C'est quand même une quantité de plastique, là, en l'occurrence, vraiment considérable qu'on pourrait assez facilement réduire. Et puis, il y a les couverts jetables, il y a les cotons-tiges en plastique, il y aura peut-être aussi demain les lingettes à usage unique, qui sont des produits dont la durée de vie est très, très limitée et qui pèsent lourd ensuite dans nos poubelles.
On est très loin, Plantu, du film du Corneau. Vous me rappeliez cette anecdote dans le film du Corneau, cette séquence.
Il y a un moment mignon, charmant et puis révoltant, mais tellement mignon. Parce que j'aime beaucoup les films de Gérard Houry. Il y a un moment, Bourvil, et il est sur la Côte d'Azur et il prend sa batterie. Elle marche plus. Et il la balance dans la Méditerranée. Et je suis sûr que, à l'époque, j'étais le premier rigolé parce que bon, Bourvil, il pouvait faire n'importe quoi. Moi, j'étais sous la table, sous mon fauteuil, tellement je rigolais. Et là, quand je suis sûr que si on montrait cette batterie qui est balancée dans la Méditerranée, toute bleue, toute belle, et les gens dans la salle de cinéma feraient. Ça paraît incroyable et finalement bon ben voilà, c'est la vie qu'on a connue. Et vous, quand vous, avec vos pailles là, vous avez raison, je me suis jamais posé la question. Et il faut juste se reposer les très bonnes questions. Avec un peu de bonne volonté, on peut y arriver, mais il faut juste se poser et que vous ayez au moins une parole et une écoute. Et là, en ce moment, on dirait qu'il y a de plus en plus une écoute à ce que vous racontez.
Hein, Flore Berlinguer.
Peut-être que dans quelques générations, on sera aussi étonné que vous l'êtes devant le geste de Bourvil par rapport à ces produits à usage unique et notamment en plastique qui ont inondé notre quotidien, mais qui sont finalement là depuis très peu de temps.
Exactement. On dira à ce moment-là, dans 30 ans, on dira c'était comme ça dans les années 2018, mais ça fait une paille. Voilà.
C'est ça. Mais c'est bien, c'est parfait. Je trouve que vous êtes très très en forme, cher Plantu. Bah, ça mérite une petite chanson, une chanson délicieuse, une petite cantate, ça vous dirait?
Tant que c'est pas moi qui chante, ça va.
Ça va.
Une petite cantate du bout des doigts. Hop, c'est dans tes mains à droite, monte vers toi. Une petite cantate que nous jouions autrefois. Seul je la joue mal à droite. Cette petite cantate fa sol do fa n'était pas si maladroite comme c'était toi. Les notes couraient faciles, heureuses au bout de tes doigts. Moi j'étais la malhabile. Mais tu es parti fragile vers l'au-delà. Et je reste malhabile fa sol do fa. Je te revois souriante assise à ce piano-là. Disant bon je joue toi chante 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 là pour moi. Si mi la ré, si mi la ré, si sol do fa. Si mi la ré, si mi la ré, si sol do fa. Oh mon ami, oh ma douce, oh ma si petite à moi. Mon Dieu, qu'elle est difficile cette cantate sans toi. Une petite prière, la 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 la. Avec mon cœur pour la faire et mes 10 doigts. Une petite prière et sans un signe de croix. Quelle offense, Dieu le Père, il me le pardonnera. Si mi la ré, si mi la ré, si sol do fa. Si mi la ré, si mi la ré, si sol do fa. Les anges avec leurs trompettes, la jour au jour et pour toi. Cette petite cantate que nous jouions autrefois. Les anges avec leurs trompettes, la jour au jour et pour toi. Cette petite cantate qui monte vers toi. Cette petite cantate qui
merci beaucoup, monsieur Depardieu, pour cette petite cantate avec votre ami.
C'est très beau, parce qu'il y a de l'émotion.
Ouais.
Et il me fait penser à Michel Simon quand il chantait. Il chantait pas toujours juste, mais l'émotion était là. Avec Depardieu, je trouve qu'il y a du cœur.
C'est ce qu'il faut dire, le genre de cas, il faut dire, en fait, si, il chante juste, mais à côté de la note, voyez.
Ah, c'est gentiment dit.
C'est ça. Alors, j'ai sous les yeux aussi, quand même, un autre ouvrage qui est en train de sortir, coédition avec les Bibliothèques nationales de France et Calman Lévy, Plantu, 50 ans de dessin, avec un texte de l'ami Éric Fotorino. Je sais qu'il nous écoute, il n'est pas sur son vélo forcément encore aujourd'hui. L'ami Éric.
Vélo pliant.
Je sais, oui, il vient, il prend de chez lui, vélo pliant, voilà. 50 ans de dessin de presse, donc là ça va être à partir du 19 mars, donc à la Bibliothèque nationale de France, donc 50 ans de dessin de presse de Plantu, qui a commencé tout petit. Et là on retrouve, alors c'est pas que consacré à l'écologie, c'est j'ai sous les yeux en fait le catalogue de cette exposition, et puis donc bien sûr ça chauffe pour la planète, 60 dessins de presse aux éditions Gallimard, et nos messages 01 56 40 40 35.
Bonjour Denis, bonjour à tous les auditeurs. Vous êtes tous invités au 25e Bioforum organisé par Nature et Progrès et qui aura lieu les 10 et 11 mars au Palais des Grottes à Cambrai, dans le Nord. L'entrée est libre et gratuite. Vous trouverez, comme d'habitude, de nombreux stands, des animations pour les petits et les grands. Consultez notre site www.nature-et-progrès-npdc.org. Au plaisir de vous accueillir. À bientôt.
Je vous appelle d'une petite ville du Loiret, Gien, dans le 45. Gien est traversée par la Loire et nous avons un gros problème à Gien. Il y a 121 platanes sur le quai de Loire qui sont alignés. Ces 121 platanes sont menacés. Sur ces 121, 61 sont menacés par un plan de requalification du centre-ville. Malgré nos alertes au préfet, malgré une loi votée en août 2016 qui protège les alignements d'arbres, 31 platanes ont déjà été abattus en bord de Loire. Il en reste une trentaine à sauver et sur ces 30 platanes, un diagnostic phytosanitaire nous explique que seulement 6 sont condamnés et seulement 6 devraient être abattus. Sur les premiers abattus, 28 ont été abattus pour rien. Nous avons alerté le préfet, nous avons cherché à mobiliser du monde. Aujourd'hui, des parrains de la France entière nous ont rejoints, comme Hubert Reeves, comme Alain Baraton qui a parlé de nos platanes. Allez sur notre page Facebook, ça s'appelle « Gien, sauvons les platanes ». Faites du bruit, il faut absolument que nous nous mobilisions tous pour sauver ces platanes qui restent. Je vous remercie.
Bah oui, c'est pas mal, Gien. Mais ça, alors là, actuellement, on a une série, mais c'est, Francis Salé l'avait bien dénoncé, est-ce que les maires aiment vraiment les arbres dans les villes? Donc ça les embête, parce que ça fait des racines, oui, sous le bitume. Oui, il se trouve que les arbres, figurez-vous, Plantu, je ne sais pas si vous avez remarqué, ça a des feuilles. Et c'est très embêtant parce que ça tombe. Et alors, on n'aime pas du tout.
Sauf que c'est poétique et puis que c'est beau à voir et que tous les enfants ont étudié les feuilles de platane dans les écoles. Et je crois qu'il y a toutes les générations qui ont des souvenirs de collage de feuilles de platane et c'est magnifique.
Et alors, ça aussi, vous l'avez déjà dit, mais ce travail, vous passez beaucoup de temps dans les écoles.
Oui, parce qu'il faut tout reprendre. Faut reprendre qu'est-ce que c'est que l'interdit, qu'est-ce qui est autorisé, qu'est-ce que c'est que la censure, qu'est-ce que c'est que l'autocensure. Souvent, je vais dans des écoles où il y a des jeunes qui pensent ouais, que vous pouvez pas tout dire. Moi, je peux tout dire. Mais je dis arrête de dire ça. Et tu dis tout ce que tu penses du proviseur, là. Hier, j'étais à Asnières dans un lycée qui était drôlement bien, lycée professionnel, le lycée de Progny. Et il y a des petits jeunes, ils étaient mignons comme tout, ils posent plein de questions et ils sont passionnés par l'idée de jusqu'où on peut aller, qu'est-ce que c'est qu'un interdit, qu'est-ce que c'est qu'un tabou, qu'est-ce que je m'autorise à faire, qu'est-ce que je m'autorise pas à faire. Il faut tout reprendre calmement et à partir du moment où ils comprennent que on est là pour écouter la culture des autres, on était il y a pas longtemps à Molenbeek, à Bruxelles, dans ce quartier où les terroristes sont partis pour faire leurs exactions, et ben on travaille avec ces jeunes qui sont souvent musulmans et on est à l'écoute et on leur dit vas-y, va jusqu'au bout, ça ne veut pas dire que je serai forcément d'accord avec toi, mais je te respecte, tu me respectes. On parle aussi, dans une autre émission, je vous parlerai du chip. Qu'est-ce que c'est que le chip dans les écoles? C'est autre chose.
Alors ce que je vous propose, c'est d'avoir notre petite page nature. Elle va durer à peu près 3 minutes. Et là, je vais vous emmener dans la Haute-Maurienne, donc on est dans le département de la Savoie, dans un coin très beau. On est du côté de Lens-le-Villard. Et là, retrouver un ami qui s'appelle Yves Berneron, qui est un formidable raconteur, et qui va nous parler de quoi? Eh bien des chamois, et bien sûr des chamois en hiver avec Yves Berneron en Haute-Maurienne.
C'est vrai que c'est très dur, et vu d'ici, cette montagne est absolument toute couverte de neige, on ne voit apparaître que les rochers, mais il faut savoir qu'on a du vent en Haute-Montagne, et ce vent va balayer la montagne, d'un côté, de l'autre, suivant sa direction, et les chamois connaissent parfaitement les vents, et c'est comme ça qu'ils vont trouver à manger. Ils suivent les vents tout simplement, ou même les avalanches. Les avalanches balayent la montagne, la rabotent, dégagent de ci, de là un petit peu d'herbe, et c'est là que les chamois vont trouver à manger. En gros, c'est bien maigre, hein, c'est sûr, au niveau du sol, l'herbe garde toujours une partie très vivante. Et c'est ça que le chamois va manger. Il ne va pas s'amuser à manger l'herbe sèche en boue, non. L'herbe carrément au niveau du sol. C'est pour ça qu'il attend que le vent vienne.
Alors ici, nous sommes dans un endroit où peut-être qu'on ne les a pas encore aperçus, mais eux, a priori, nous ont déjà aperçus.
Ah oui, oui. Ils connaissent tellement bien leur montagne. Et puis, ils n'ont pas une vue extraordinaire, mais une ouïe sensationnelle et puis surtout un odorat extraordinaire. Ouais. Et sur ces flancs sud de la Tura, là, c'est vrai qu'ils sont très présents. Hier encore, il y avait une harpe de près de 50 chamois juste en face de nous. Le vent a changé un petit peu, tu vois, cette nuit. Ouais. Il a blanchi ce côté-là. Il a certainement dégagé l'autre. C'est pour ça qu'ils sont de l'autre côté.
Il y a un nom qui est très joli, lorsque l'on parle des chamois, c'est celui d'Éterloup. L'Éterloup, c'est le petit, mais qui a déjà un an, je crois.
C'est le petit qui a un an. Hein. Il est chamoiseau ou cabri de sa naissance à un an. Donc pendant du mois de mai au mois de mai, il va rester cabri ou chamoiseau. Et puis au mois de mai, ses cornes ont déjà poussé de 4 ou 5 cm, alors il devient Éterloup. Et il restera Éterloup comme ça jusqu'à l'âge de 2 ans, 2 ans et demi, tant que ses cornes sont en dessous de ses oreilles. Une fois que les cornes sont plus longues que les oreilles, il a le malheur d'être chamois adulte, donc un chamois qui peut être chassé aussi.
Alors, les mamans, elles sont pleines, là, parce que a priori, c'est le mettre bas au mois de mai.
Oui, bien sûr, les chèvres sont pleines. Elles commencent à être lourdes, et c'est pour ça qu'elles sont très prudentes. Elles font attention à ce ventre qui porte le petit. Et les naissances, oui, vont avoir lieu toujours dans la première quinzaine du mois de mai. Et ça, c'est merveilleux, parce que quand on sait qu'au mois de mai, on a encore des tempêtes de neige comme pas possible, ici, à cette altitude-là, et que les femelles de chamois vont mettre au monde leurs petits dans ces conditions, c'est extraordinaire.
Alors là, Yves, on les a, ça y est, là, ils sont sur la crête. Hein.
Là, on les voit bien sortir, tous en file indienne. Il y en a toujours un qui connaît mieux les chemins que les autres, dans une zone qui reste difficile, parce que tu vois, il y a encore des corniches extrêmement importantes en crête qui dominent ces flancs très très raides.
Donc ils peuvent tomber.
Surtout ne pas passer en dessous ni dessus et s'éloigner, chercher les passages où ils risquent le moins possible pour venir là rencontrer ces plaques où le vent a déneigé et où ils vont trouver un petit peu d'herbe.
Cette petite respiration, cette page nature qui nous fait vivre dans CO2 Mon Amour avec donc Yves Bernoron. On était en Haute-Maurienne, on était vers 1500-1600 mètres d'altitude pour découvrir comme ça donc la vie du chamois en hiver. Chamois que vous dessinez relativement peu, me semble-t-il, cher Planteux.
Je m'en veux beaucoup.
Bah oui, bien sûr. Lui aussi, d'ailleurs, chamois.
En plus, c'est sympa, là, je vous ai dessiné un petit chamois là en l'écoutant.
Ah, c'est mignon tout
parce
plein.
Que chamois, c'est sympa à faire, à dessiner, une chèvre aussi. Et en écoutant, je trouve que c'était une belle respiration que vous venez de nous donner comme un cadeau. Et en fait, je me souviens que le mot chamois que j'entendais quand j'étais petit, c'était mon père qui astiquait sa dauphine avec une peau de chamois.
Ah oui, c'est ça. Oui, bien sûr, c'était mais alors maintenant, je vous rassure, c'est synthétique, on est passé complètement à autre chose. Le besoin de nature chez Plantu, je sais que vous êtes assez parisien, assez urbain, mais...
Ben, comme j'arrête pas d'aller dans les écoles qui sont pas forcément dans Paris, je hume la nature dès que je peux, et j'ai vraiment... Ça me fait du bien, mais déjà la radio, et je vous remercie, hein, je remercie les gens de France Inter, vous avez un sens du son qui fait que quand il y a du son, il y a presque de l'odeur, parce que vous avez un son qui respire bien la nature, et on a cette chance quand on écoute France Inter.
Là, c'est ça qu'on ferme les yeux, et après,
et
c'est vous, et voilà, et c'est à vous après de faire le boulot. Juste un tout petit mot encore avec vous pour l'association Biocycle Jean-François Réco. Donc, on a bien compris quel était l'état d'esprit, lutter contre le gaspillage et aussi donc créer des emplois. Mais un petit mot quand même peut-être sur une autre activité que vous faites.
Oui, absolument. En fait, on a développé également la teinture naturelle, c'est-à-dire qu'on utilise tout ce qui est peau d'avocat, fan de carotte, épluchure d'oignon pour faire des bains-maris dans lesquels on teinte en fait du textile de chute. Et à côté de ça, on fait aussi de la transformation alimentaire, c'est-à-dire qu'on crée des gammes soupe, jus, compote, confiture à partir de fruits et légumes moches selon un rivage.
Et on vous retrouve bien sûr sur votre site, sur le site de CO2 Mon Amour, donc l'association Biocycle. Grand merci, cher Plantu.
Merci beaucoup.
Aujourd'hui, c'est tranquille, pas de dessin à faire, c'était bon là.
Non, je prépare mon expo à la bibliothèque, à la BNF.
Alors là, c'est pour le mois de mars.
Et c'est pas simple, parce que je leur remets 30 000 de mes dessins. chevaux. Depuis, ça fait 50 ans de dessin, donc il y a 30 000 dessins.
Voilà, et donc chez Calmann-Lévy, Bibliothèque nationale de France, Plantu, 50 ans de dessin, et puis ça chauffe pour la planète, vous l'avez compris. Merci Élise Christophe, Maximin Grand, Sophie Hoffman, notre assistante, Xavier Pestugia, Anne Gouzon qui a nourri les sites, et nous on se retrouvera tranquillement la semaine prochaine. Les petits bateaux pour faire lire un petit peu les enfants, ce sera demain à 19h54. On prend le souffle, tranquillement, pour vous souhaiter un bon week-end.